Bonjour, c'est Symbiose. Donc aujourd'hui, on va parler du libre et du graphisme. Et David va commencer par nous faire un petit tour des nouvelles du libre. Alors David, t'es sur quel micro ? Le bleu ?
Donc bonjour, on va commencer alors par quelques nouvelles. Donc la première, SFR vous piste. Donc il faut savoir que SFR est en train de lancer un nouveau service qui permettra donc de géolocaliser ses abonnés. Alors l'objectif évidemment annoncé n'est pas de vous pister vous personnellement, mais plutôt de pouvoir donner des informations de trafic en temps réel. Alors ce qu'il est sûr, c'est que la CNIL à l'heure actuelle se penche sur cette pratique pour s'assurer évidemment que vous ne serez jamais pisté en nom propre, mais que toutes les données seront anonymes. Alors, il y a aussi une recette pour faire des cookies, Firefox. Donc, c'est une recette de cuisine. Il faut savoir aussi que les cookies sont un terme technique en informatique, mais là, il s'agit bien d'une recette de cuisine. Donc, cette recette, on vous donnera le lien sur oniric.net et vous pourrez fabriquer des gâteaux qui ont la forme du logo de votre navigateur favori.
Ok, et quoi d'autre ? Tu as d'autres
nouvelles ? Alors, donc, d'autres informations sur Microsoft et sa stratégie de partenariat à l'école. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des associations assez influentes, des associations d'enseignants qui cherchent à promouvoir les utilisations pédagogiques des technologies de l'information et de la communication. Donc, on peut citer par exemple l'association Progetis. La question que l'on peut se poser, c'est que cette association semble en partenariat fort avec Microsoft et que, notamment, cette association ignore totalement l'utilisation des logiciels libres. Alors, autre information au niveau de la copie privée. Les industriels ont claqué la porte de la commission Albis. Donc, cette commission qui se regroupe, en fait, pour décider de la manière de taxer les nouveaux produits au niveau de la taxe quant à la copie privée. Donc typiquement, il y a une décision récente de taxer maintenant les smartphones.
D'accord. Donc, c'est une commission qui est réunie par qui ? C'est un truc d'État avec des professionnels, c'est
voilà,
ça ?
Tout à fait. Donc c'est une commission qui regroupe les industriels, donc ceux qui fabriquent du matériel, mais aussi donc les grands noms de l'industrie du disque, ainsi que donc des gens du gouvernement. Donc notamment, on peut citer cette phrase de Bernard Hégé, qui est le délégué général du CIMAVELEC, donc qui est justement une association qui représente les industriels, donc ceux qui fabriquent le matériel. Il a dit « Il n'y a plus de discussion au sein de cette commission qui est une machine à perdre. Toutes les décisions vont dans le même sens, qui est d'appliquer la redevance pour copie privée au plus grand nombre de supports possibles. Nous sommes pour le financement de la copie privée, mais cela ne doit pas être fait n'importe comment. »
Oui, parce qu'il faut savoir que la question de la copie privée, avec la loi d'AFSI, en gros, on n'a plus le droit de faire, pour un certain nombre de choses, plus le droit de faire de copies, mais les supports sont quand même taxés pour la copie qu'on n'a pas le droit de faire.
Voilà, et c'est d'autant plus surprenant finalement que tous les supports sont taxés indépendamment de leur usage, parce qu'on suppose que les gens vont forcément pirater avec. Donc si on prend le cas des smartphones dont l'objectif premier n'est pas d'écouter de la musique ou de regarder de la vidéo, mais plutôt d'avoir un petit assistant personnel en guise de téléphone pour justement gérer ses rendez-vous, faire de la bureautique éventuellement, on peut s'interroger sur le fait de taxer ces produits dont la mission principale n'est pas d'écouter de la musique.
D'accord, très bien. D'autres nouvelles ?
Alors une dernière nouvelle sur les ultimes débats avant le rejet ou l'acceptation d'OOXML. Donc OOXML, c'est le format de document pour la bureautique proposé par Microsoft.
Alors il faut faire, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer un petit peu la petite arnaque qu'il y a derrière ce nom-là, parce qu'on a l'Open Document Format qui est un format de document bureautique qui est normalisé maintenant, qui est celui qui est utilisé par OpenOffice et qui est un format ouvert. Donc on sait comment c'est fait, n'importe qui peut faire un logiciel qui soit compatible, etc. Et donc Microsoft essaye de faire son propre format normalisé, donc reconnu par les instances de normalisation, et vaguement ouvert, quoi. Enfin, on sait pas trop. Ça c'est un peu ouvert, mais pas trop, etc. Et ils ont poussé le vice à l'appeler, parce que bon, OpenOffice est souvent marqué. Donc c'est OpenOffice.org. Donc c'est souvent, il y a souvent comme diminutif 3O, donc 2O majuscule et un petit O. Et là, Microsoft pousse le vice à créer un format qui s'appelle
Office Open XML.
Voilà. Et donc du coup, ça sème le doute dans pas mal d'esprits en se disant bon ben voilà, c'est ouvert, c'est Open Office, c'est lié, etc. Et en fait non, c'est le projet concurrent.
Voilà. Donc cette proposition avait été rejetée en septembre de l'an dernier parce que il y avait un certain nombre de non-conformités ou même d'erreurs techniques dans la spécification. Et Microsoft a amendé son document et a apporté 1100 corrections. Et donc, ce sont ces 1100 corrections qui représentent 6000 pages de documentation que l'ISO est en train d'examiner. Donc, pour comprendre les enjeux derrière, il faut savoir que de plus en plus d'institutions demandent une normalisation des formats d'échange pour justement garantir la pérennité des documents. Donc, derrière, il y a vraiment des gros enjeux.
Très bien. On a fait le tour des nouvelles ?
Oui.
Ok, bah on va écouter un petit morceau. Donc c'est un groupe, ou en tout cas un musicien qui s'est appelé Sushi Souchamp. Donc Mister Sushi Souchamp. Donc à base de scratch et de ce genre de choses. Donc on va découvrir ça.
Eh bien, bonsoir, alors ce soir c'est la super soirée DJ avec...
Permettez-moi de me présenter, je m'appelle...
Sushi Souchamp.
Check this out, man.
Donc Symbiose de retour, donc nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, on parle de libre et de graphisme. Alors, l'émission est un peu particulière parce que nos invités n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Donc, on a essentiellement des enregistrements, mais nous sommes physiquement bien dans le studio. Donc voilà. Donc, on vient d'écouter un titre de Mister Sushi Souchamp. Donc, ça s'appelle Imbabas Part 1. On va écouter la deuxième partie tout à l'heure. Donc cette musique est sous licence Creative Commons, non commerciale et share alike, qui veut dire qu'on peut modifier le morceau à condition de respecter la licence. Donc typiquement un morceau qu'on peut copier sur des supports sans devoir nécessairement payer la redevance pour copie privée, parce que c'est sous licence de libre diffusion. Voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc on va vous passer maintenant la première interview, qui est celle d'Agnès Maillard, qui va se présenter, qui est une graphiste, qui travaille avec du libre et qui a monté son activité. Donc on va vous passer à Agnès maintenant.
Bonjour Agnès, tu as créé une société qui s'appelle Imadiez. Réalise des environnements graphiques pour l'entreprise. Donc, peux-tu préciser en quoi consiste ton travail de tous les jours et quelle est la place des logiciels libres dans ce travail ?
Donc, en fait, il s'agissait de me mettre à mon compte et j'avais une expérience de webmaster, donc acquise dans l'entreprise, dans une SS2I, et aussi une expérience de graphiste, puisqu'en fait, je maîtrisais l'ensemble des tâches en tant que webmaster et aussi chef de projet multimédia. Donc, j'avais des relations avec les imprimeurs, je m'occupais vraiment de tout ce qui était multi-support, donc CD, DVD, et donc quand j'ai dû me mettre à mon compte, je me suis installée en tant qu'infographiste.
D'accord. Et donc, dès le début, tu as commencé avec des logiciels libres ou dans tes précédentes expériences, tu avais touché à d'autres logiciels propriétaires ?
Alors, en fait, comme j'étais en entreprise en tant que chef de projet multimédia, je ne travaillais exclusivement qu'avec des logiciels propriétaires. Donc, la suite Adobe, et à l'époque aussi les suites Macromedia, puisque à l'époque les deux choses étaient séparées, et évidemment tout ça sous Windows. Et j'avais été frappée justement par le fait que mon chef d'entreprise, en fait, devait très régulièrement renouveler ses licences.
Oui.
Et que sur notre type de société, ça pesait assez lourdement, en fait. De deux points de vue, ça veut dire au niveau du coût, bien sûr, puisque la suite Adobe n'a jamais été donnée, y compris dans ses mises à jour, mais aussi en termes de perte de temps. Parce que à chaque fois, il fallait redéployer les nouveaux outils, des fois s'adapter à des nouvelles façons de faire, à des nouveaux environnements, donc c'était assez pénalisant, en fait.
D'accord.
Donc j'ai travaillé quasiment, toutes mes 10 premières années informatiques, ça a été entièrement sous système propriétaire, à deux exceptions notables. Donc la première, c'est que quand j'étais en service, j'ai travaillé dans un service informatique d'une grosse boîte. Donc là, j'y travaillais avec un Linuxien qui a essayé de me convertir pendant des années. En me vantant les charmes de la ligne de commande, ce qui était très inefficace. Et dans ma seconde société, donc la SS2I, on travaillait donc sur nos propres serveurs. Les serveurs étaient tenus par une société extérieure qui était un nid de Linuxien. Et donc finalement, ils ont déployé le réseau interne sur un ordinateur sous Red Hat. Et comme c'est moi qui étais chargée de maintenir le réseau interne, il a bien fallu que je m'y mette.
D'accord.
Donc, en fait, à l'époque, c'était année 2000, en fait, à peu près. Et ça correspondait bien à la manière dont Linux se diffusait dans le monde d'entreprise. Ça veut dire essentiellement au niveau des serveurs internes.
Et donc, c'est ce qui t'a amené à découvrir donc, les logiciels de graphisme qui tournent sous Linux.
Et... Ah non, ça a été plus loin, ça a été plus long.
D'accord.
Non, en fait, c'est la philosophie Linux a En fait, je suis plus arrivée par la philosophie que par les logiciels.
D'accord.
Parce que pendant longtemps, on ne peut pas dire vraiment que l'univers Linux était très mature pour le grand public. Il était plutôt rébarbatif. Et c'était vraiment quelque chose pour des administrateurs réseau, quoi. C'était pas sympa du tout. Par contre, l'idée générale donc, d'un système collaboratif était très intéressante, mais pas applicable. Mais j'ai toujours gardé contact avec mes amis linuxiens. Donc, on a toujours eu des échanges. Et au moment où s'est posée la question pour moi de créer ma société, en fait, je me suis tournée vers eux. Je leur ai dit, bon, franchement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je peux me lancer en 100% libre?
D'accord.
On était donc fin 2005 et la réponse a été oui. Ouais. Donc, on s'est lancé.
D'accord. Et la transition n'a pas été trop difficile en termes d'ergonomie et aussi de fonctionnalité?
Ça a été un peu terrible au début parce que j'ai un peu plongé sans filet. Donc, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai amené chez mon ami linuxien et je lui ai dit, bon, ben, installe-moi un truc qui va bien, parce que bon, ça, je pouvais pas installer moi-même à l'époque, j'avais pas les connaissances pour installer moi-même le système. Donc, il fallait quelqu'un pour faire le boulot pour moi. Installe-moi quelque chose qui va bien avec les logiciels dont j'aurais besoin.
D'accord.
Donc, c'était cet ami qui avait la compétence pour toute la partie correspondance des logiciels. Donc, il m'a dit, bon, quelles sont les actions que tu as besoin de faire, je te trouverai les logiciels qui iront bien. Et donc lui m'a installé en fait une Debian Seed sur mon ordinateur, j'en rigole encore. Et donc pendant 6 mois, j'ai tourné avec la version de développement de Debian et ça a été très musclé.
Et donc la transition a été surtout difficile en termes de manipulation des outils ou pour retrouver tout simplement les fonctionnalités que l'on a l'habitude de manipuler?
Le plus gros dépaysement, c'est quand même, c'est effectivement les logiciels graphiques, donc essentiellement GIMP, puisque la philosophie de GIMP, son ergonomie est totalement différente de celle de Photoshop.
Oui.
D'un autre côté, si on est totalement honnête, une fois qu'on a passé le problème vraiment de l'interface, donc une interface multi-fenêtre qui est celle de GIMP par rapport à l'interface plutôt de Photoshop, quand on a oublié, ce qui arrive assez rapidement quand même, quand on a oublié tous les systèmes de filtres de Photoshop que tout le monde connaît, qui font qu'on reconnaît une image maintenant Photoshop assez rapidement, en fait on se réapproprie assez vite l'outil. Et surtout on se rend compte finalement que sur la plupart des logiciels professionnels qu'on utilise, on n'en utilise fondamentalement qu'une toute petite partie.
Oui.
Après 10 ans de travail sur Photoshop, en fait, je me suis rendu compte que j'en utilisais très peu. Et en utilisant GIMP, donc en fait, j'ai réappris des fonctionnalités, j'ai réappris des nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec GIMP qu'avec Photoshop.
D'accord.
Alors, il y a un effort d'adaptation à faire. Faut être clair, il y a un effort à faire.
D'accord. Et est-ce qu'on peut parler justement donc du type de documents graphiques que tu produis et justement parler des outils utilisés, parce qu'on a parlé de GIMP, mais c'est quand même principalement de la retouche. On n'a pas encore parlé de mise en page ou de
GIMP,
création.
On peut faire des choses hein, quand même avec GIMP. Hein. Oui, c'est essentiellement de la retouche, mais on peut, en chargeant des brosses, parce qu'il y a énormément de sites qui proposent par exemple des brosses GIMP, en chargeant des brosses et tout, on peut pratiquement l'utiliser comme un logiciel de dessin.
D'accord.
Donc on n'est pas limité à la retouche et il y a quelques... Non, mais c'est vrai que par exemple pour faire de la mise en page ou pour faire du vecto, je ne vais pas passer par GIMP.
D'accord. Et donc là, on utilise quelle sorte de logiciel justement?
Alors pour le vectoriel, j'avais commencé un petit peu avec Sodipo, ça ne m'avait pas du tout plu. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un ami qui me dit, là, je crois que Inkscape arrive à maturité. Donc je charge Inkscape. Et là, ça a été... autant on peut dire que ça a été difficile quelque part de passer de Photoshop à GIMP, bon maintenant je suis ravi de ce choix, autant l'arrivée sur Inkscape a été une révélation. C'est-à-dire que quand je faisais du vectoriel sous Illustrator, c'était une souffrance.
Ah oui.
Je me rappelle chaque fois que mon patron me disait bon, ben là il va falloir faire du vecto, je me disais oh non, il va falloir que j'aille encore sous Illustrator. Enfin, vraiment, je trouvais ça pénible, franchement.
D'accord.
Là j'arrive avec Inkscape et je me retrouve avec un outil plutôt léger, très intuitif et d'une simplicité d'utilisation extraordinaire. Et non, par contre, oui. Alors maintenant j'utilise beaucoup justement le vectoriel dans mon travail. Finalement, c'est l'outil là qui a fait l'usage.
Et donc, on produit quel document avec le vectoriel? C'est pour produire des affiches, par exemple, ou des logos?
Oui, bon, des logos, ça, c'est le premier usage. Alors, en fait, la plupart des outils que j'ai, je les utilise en combinaison les uns avec les autres. La première raison qui est assez bonne, c'est que c'est les problèmes de format. Quand on travaille avec Inkscape, on sort du SVG. En théorie, d'accord, le SVG, c'est le, comment ça s'appelle ? C'est le format vectoriel universel. Je ne devrais même pas devoir me poser les questions. Le problème, c'est que la chaîne graphique est verrouillée par les produits Adobe, et donc du coup, les gens ils ne connaissent pas le SVG.
Oui.
C'est un format qui s'est... Donc, en fait, mon SVG, je sors mon SVG, mais je fais plein de choses. Je peux faire de la mise en page, je fais, par exemple, si j'ai à faire des courriers, enfin, vous savez, dans tête de lettre ou des cartes de visite, je vais faire ça sous Inkscape, qui est vraiment l'outil le plus simple pour ça. Ou même des pré-maquettes de sites, je vais les faire sous Inkscape, parce que là, j'ai un bon rendu et j'en fais ce que je veux. Les boutons, par exemple, si je travaille sur des boutons...
D'accord, parce que ça, justement,
pour
c'est...
Pour un site internet, je le fais avec Inkscape. Mais d'accord, après, je vais importer mon travail dans un autre... Soit je l'exporte en PNG, par exemple, si c'est pour une utilisation web, et si c'est pour une utilisation print, en fait, je vais l'importer dans Scribus.
D'accord. Donc Scribus qui se positionne plus au niveau de InDesign, c'est ça, de la suite Adobe.
Alors, de la même manière, finalement qu'Inkscape, Scribus se révèle être un outil merveilleusement bien fait pour son usage qui est la PAO.
D'accord.
Mais vraiment très bien fait. Donc, ça fait combien de temps que j'utilise ? Bah, ça va faire 2 ans hein, à peu près. Et en 2008, 2 ans et demi. Et je suis arrivée vraiment au moment où justement l'équipe de développement de Scribus réfléchissait aux problèmes d'interface et d'ergonomie. Et on est vraiment maintenant sur un outil qui est franchement facile à utiliser. Et là, on parle quand même de mise en page, de PAO. Moi, je viens de Quark Express.
Oui.
Quark Express, c'est lourd, c'est lourdingue, c'était difficile à mettre en œuvre. Quand il fallait former quelqu'un pour l'utiliser, c'était un peu la galère. Scribus, à côté, c'est grand public. D'accord. C'est grand public, mais c'est très efficace. C'est un outil réellement très efficace. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que à un moment donné, j'étais sur Scribus et en même temps, j'avais le feedback de l'équipe de développement. Ça veut dire, ça, c'est un truc qui est extraordinaire quand on commence avec le logiciel libre, c'est que vous pouvez participer même si vous n'êtes pas un développeur. Vous pouvez vraiment participer à l'élaboration de votre propre outil de travail. Ça, c'est, pour moi, c'est une des dimensions qui a été la plus extraordinaire. Donc, j'étais avec cet outil que j'utilisais quasiment au quotidien. Donc, je pouvais faire du reporting à l'équipe de développement et leur demander des améliorations qui m'arrangeaient.
D'accord. Et ces améliorations étaient généralement prises en compte ?
Ah oui. La petite chose toute ridicule dont je suis très très fière, c'est à un moment donné, donc c'était les outils d'alignement. Quand vous faites de la PAO, c'est vrai que vous avez besoin d'aligner vos objets par rapport à la page, par rapport à la sélection et tout ça. Et en fait, ça existait, ces outils existaient dans Scribus, mais c'était avec une interface non graphique, c'était une interface écrite avec un menu déroulant. C'était un truc, c'était plutôt pénible, lourdingue et moche. Et je leur ai dit, mais pourquoi, en fait, vous faites pas une interface toute mignonne avec des petits boutons qu'on pourrait même aller piquer chez Inkscape, qui avait justement cette jolie interface. Mmh. Bon, mais finalement, ça a été la version suivante, je l'avais.
D'accord. Donc, quand on dit la version suivante, c'était en combien de temps que ça a été disponible, justement ?
Oh, il aura fallu la semaine.
D'accord, donc on se rend compte que c'est beaucoup plus réactif, justement, que les patchs que l'on connaît chez les éditeurs traditionnels, effectivement.
Mais on n'est pas du tout dans la même philosophie. Donc, les gens vont au libre parce que c'est gratuit. Il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Ils vont souvent au libre pour des raisons financières, des raisons de coût. Mais en fait, c'est... J'ai estimé que dans la mesure où j'arrivais à gagner de l'argent avec des logiciels libres, je devais finalement rétribuer les logiciels libres d'une manière ou d'une autre. Comme ça ne pouvait pas être avec un pourcentage sur mon chiffre d'affaires, je me suis dit, ben, je suis un utilisateur, je peux finalement faire du compte-rendu d'utilisation.
D'accord.
Et je trouve ça très stimulant comme oui. façon de travailler. Mais c'est vrai que, par ailleurs, il faut intégrer dans vos coûts et votre façon de travailler le fait que vous passez aussi du temps à faire cet échange.
Oui, effectivement.
Alors, mais c'est philosophique, si vous préférez.
Oui, mais en tout cas, tu es la preuve qu'on peut déjà gagner de l'argent avec les logiciels libres et dans un domaine qui est en dehors, on va dire, de l'informatique traditionnelle, à savoir le développement ou le service au sens SS2I. Donc
oui.
C'est déjà plutôt un bon point.
Bon, après, je pense que quelqu'un avec peut-être quelqu'un de plus commercial que moi, etc., gagnerait beaucoup plus d'argent. Mais ce n'était pas mon objectif principal. Mais non, je pense que, en tout cas, au moins sur mon type de métier, on peut vraiment envisager d'être 100% libre.
D'accord. Et si on compare justement par rapport à la suite CS3, enfin donc Creative Suite de Adobe, la plupart de ces défenseurs vendent quand même le fait que justement comme tous les outils sont intégrés, quand par exemple il y a une modification sur une image via Photoshop, on est prévenu automatiquement dans Illustrator que ça a changé, etc. Il y a une certaine intégration entre ces logiciels. Cette intégration-là existe ou est-ce qu'elle n'existe pas justement entre les trois outils que tu as cités, Scribus, Inkscape et GIMP, à savoir en termes d'interactivité ?
Ils ne sont pas intégrés, mais ils sont compatibles.
D'accord.
Puisqu'ils utilisent des formats libres et ouverts, en moyenne, par exemple, bon, c'est vrai qu'il y a eu une période où Scribus avait des petits soucis pour importer du SVG, donc qui est le format libre et ouvert de vectoriel. Bon, aujourd'hui, ces problèmes ont été palliés. C'est vrai qu'on travaille en fait sur des outils en développement, il faut dire les choses. D'un autre côté, c'est aussi ce qui arrive quand on travaille avec des logiciels propriétaires, sauf qu'on les paye.
Oui.
C'est-à-dire, souvent, on a la version 1, 2, 3, la mise à jour de sécurité, enfin bon. Donc, mais c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc, dans mes déceptions, il y a le fait que, justement, toute l'équipe qui travaillait sur SVG, ils ne sont pas arrivés à l'imposer comme standard pour l'instant. Moi, ça me semble évident que le SVG devrait, en fait, être le standard du vectoriel et même un standard en termes d'image sur le web.
Oui.
Parce que si ça n'était pas bloqué au niveau de certains navigateurs, on pourrait utiliser en natif des images SVG sur le web, donc des images vecto super propres dont on peut changer l'échelle sans aucun problème. Et le SVG était aussi prévu. Alors là, ça c'est un peu mort pour l'instant et j'espère que c'est quelque chose qui va repartir. Était aussi prévu pour fournir une possibilité de faire du dessin vecto animé.
D'accord.
C'est-à-dire un concurrent de Flash.
Oui.
Donc ça, c'est la chose que je trouvais très... Mais bon, ça, par contre, c'est vraiment bloqué. Ça n'avance pas.
D'accord. Alors, justement, là, on parlait du web. Tu fais aussi donc du design de site web.
Oui.
Et toujours, parce qu'on compare forcément avec le plus grand concurrent, hein, donc qui est la suite Adobe, il y a justement les outils pour faire la mise en page de site web, et y compris donc la publication, enfin la génération du code HTML. Pour ça, en fait, tu utilises, donc tu nous parlais d'Inkscape aussi pour faire la mise en page. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour ça?
Non, en fait, c'est pas dans la mise en page. Inkscape, je vais l'utiliser pour avoir un rendu. Après, je travaille à partir des éléments que j'ai pris. Je travaille à intégration graphique. En fait, je vais pas utiliser de générateur de code. Ça, c'est une. Déjà, j'aimais pas ça quand je travaillais en code propriétaire parce que. Disons que si vous préférez. Là, attendez, on va remonter après. Mais comment dire? Le problème du web, c'est qu'à un moment donné, on a complètement scindé les fonctions web designer et développeur web. Ce qui fait que le web designer, il générait des codes d'assez mauvaise qualité pour pouvoir avoir un rendu joli. Et, enfin, vous voyez, on était dans une dualité entre le code et l'aspect. Avec les standards, aujourd'hui, théoriquement, vous avez la partie contenu d'un côté et la partie esthétique qui est compris en fait dans le CSS.
Oui.
Donc, ce que je fais, c'est que moi, de manière, je suis graphiste, je suis pas développeur au sens propre. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise des CMS.
Alors, qu'est-ce que c'est des CMS ?
Qu'est-ce qu'un CMS ? Les CMS, c'est en fait des applications en ligne de gestion de contenu.
D'accord.
Donc,
parce que là, on peut donner quelques noms, justement.
Et il est français en plus, et c'est SPIP.
D'accord. Donc, ça te permet donc justement de t'abstraire en fait de la problématique de génération pour juste te concentrer sur la partie design.
Ben, en fait, je gère le design que ce soit par l'intégration d'images PNG, donc les images PNG que je peux générer. comme je le souhaite, en fait, soit de Inkscape, soit de GIMP, selon le type d'image que je veux produire. Et après, je gère tout ce qui est la palette graphique, enfin, tout ce qui est la charte graphique, je peux gérer en CSS.
D'accord.
Donc, sur un outil, en plus, sur un outil comme Spip, les gens qui développent Spip et que je connais bien, eux, ils sont aujourd'hui dans une optique d'intégration de la partie design à tes plantes. C'est-à-dire, ils ont des outils, ils travaillent avec des outils qui vont permettre, par exemple, vous intégrer une image dans Spip qui va être par des scripts retravaillés pour une uniformisation de sa présentation. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
Oui, si, tout à fait.
Donc, ils en sont, eux, ils sont en train, les gens qui développent Spip sont vraiment en train, à mon avis, d'aller vers le Web 3, si on s'amuse à se moquer de ceux qui parlent du Web 2. Donc, au niveau des outils d'intégration, des formats, des standards et tout ça, ils sont en train d'arriver à un très bon niveau. Enfin, là, je suis en train de développer justement un site sous Spip et c'est assez intéressant.
D'accord.
Donc, l'outil, c'est vraiment intéressant.
Oui, donc...
Après, oui, le code, c'est fondamental qu'il soit propre. Donc, on travaille le plus proche possible des standards. Et donc, pour ça, il y a de très bons outils quand vous avez besoin de taper dans le code parce que ça arrive assez régulièrement, donc comme Cantaplus. Cantaplus qui est, à mon sens, aujourd'hui, le logiciel web qui se rapproche le plus de Web Expert.
D'accord.
Donc Web Expert ou Cantaplus, c'est des logiciels d'édition web où vous êtes dans le code, vous n'êtes pas dans une interface graphique qui génère du code par derrière et un code qui n'est pas toujours de très bonne qualité.
Oui.
Donc là, je pense plutôt à, comment il s'appelle, Dreamweaver.
Voilà.
J'ai bossé avec Dreamweaver, franchement, j'en garde un souvenir désastreux.
Oui, non, mais effectivement, les pages sont généralement lourdes et pas optimisées du tout.
Ils font du code imbriqué affreux.
Oui. Enfin,
je veux dire, on produit des... Alors peut-être qu'ils ont amélioré le produit, j'espère pour eux. Enfin, en tout cas, vu les moyens qu'ils mettent dedans, j'espère qu'ils ont amélioré le produit. Mais à l'époque où on m'a demandé de travailler avec Dreamweaver, donc dans l'entreprise précédente, je générais des pages de code abominables. Les choses que les moteurs ne lisent pas bien, qui ne sont pas bien référencés, qui occasionnent des bugs et tout ça.
Ouais.
Mais évidemment, c'était joli et facile à faire.
Ouais,
vous pouviez faire une interface web sans rien connaître au code, sans rien connaître au PHP, sans rien connaître au HTML, sans rien connaître aux standards du web.
D'accord. Donc là, ça nécessite par conséquent un tout petit peu plus de connaissances techniques, d'utiliser des logiciels libres, de par cet angle-là.
C'est de l'auto-formation finalement. Enfin, je sais pas, quand vous utilisez Cantaplus, vous avez des aides au niveau du code, donc vous êtes très assisté. Donc vous commencez vraiment avec les petites balises de base, et puis au fur et à mesure vous avez besoin de faire de nouvelles choses ou de rentrer dans le CSS, vous avez vraiment des aides. Enfin, moi je trouve que c'est des outils auto-formants.
Oui, et puis en plus on peut citer les.
Vous n'avez pas une couche qui vous sépare finalement du code. Vous êtes dans le code, mais vous n'y êtes pas. Enfin, je trouve qu'on vous tient un peu par la main. Enfin bon, je n'ai pas l'impression qu'il faut être un super développeur pour utiliser ces outils.
Oui, et puis on peut citer aussi les nombreuses communautés qui sont présentes sur Internet ou même en général dans des lugs qui sont prêts à aider les gens de toute façon.
Oui, non, on n'est jamais seul. Hein, et effectivement, après... mais même s'il faut se mettre un peu les mains dans le cambouis, donc des fois trafiquer un peu le PHP ou ce genre de choses... Enfin, je veux dire, une recherche sur Google qui prend 10 secondes permet d'arriver très facilement à des forums ou à des ressources diverses. Donc, enfin, je trouve pas ça très compliqué.
Oui, puis finalement, on maîtrise mieux ce qu'on produit parce qu'on se réapproprie la connaissance au lieu de la déléguer à un outil et de tout ignorer.
Moi, je trouve ça très important, justement. Je trouvais que cette couche supplémentaire entre le site que vous génériez et vous-même, je la trouvais assez handicapante parce qu'on ne maîtrisait pas tout le process.
Oui, effectivement, et dès qu'on veut une exception qui n'est pas prévue par le logiciel, on ne pouvait pas le réaliser, donc là au moins on sait qu'on peut tout faire.
Je trouve ça vraiment intéressant de maîtriser, au niveau de l'interface graphique d'un site, maintenant il faut vraiment être sur le... Enfin, c'est vraiment maintenant une question de CSS, si vous faites les choses proprement, et puis surtout c'est quelque chose que je garantis à mes clients, c'est-à-dire moi j'essaye de travailler aussi dans le respect des standards, c'est-à-dire que l'objectif du site c'est pas forcément que ce soit un truc qui fasse plaisir avec des pouet-pouet partout, parce qu'il y a encore des demandes de ce genre, donc mais c'est quelque chose qui soit efficace, ergonomique, qui passe bien dans la plupart des navigateurs et qui permettent aux clients, parce qu'en général le client cherche ses propres clients, de toucher sa cible. C'est ça qui compte.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on, pour conclure l'interview, est-ce qu'on peut parler aussi de la relation avec les imprimeurs, notamment les formats d'échange? Parce que typiquement, donc, on a cité deux produits propriétaires, à savoir Quark et InDesign. Quark, oui, qui était le produit, on va dire, historique, et on sait que la plupart des imprimeurs, quand InDesign est arrivé, ont mis du temps à accepter ce format de fichier. Donc, toi, justement, quand tu veux discuter avec un imprimeur et lui transmettre un fichier, ça se passe sous quel format?
Bon, en gros, Scribus a franchement résolu le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est du PDF.
D'accord.
Donc, en fait, Scribus a été conçu. Parce qu'en fait, je pense qu'une partie des développeurs qui travaillent sur Scribus sont quand même des gens qui, justement, avaient des petits fichiers amenés chez les imprimeurs.
Oui.
Et donc, ça a été vraiment conçu pour optimiser au maximum le PDF pour qu'il soit le plus proche des besoins des... comment ça s'appelle c'est vraiment... Et si vous préférez, le format de sortie PDF est orienté imprimerie. Point.
D'accord. Mais il n'y a pas de problème, justement, avec... la transmission des polices de caractères que l'on a sur son poste, est-ce qu'elle transite bien justement dans le PDF de manière...
Alors, c'était déjà le problème quand moi je travaillais avec des logiciels propriétaires, ça veut dire que on était déjà sous PC alors qu'en face c'était du Mac chez l'imprimeur et qu'effectivement il n'interprète pas les typos de la même manière. Donc le problème avait déjà été résolu à l'époque, vous vectorisez, tous vos textes sont vectorisés. Quand vous envoyez un fichier chez l'imprimeur, vous l'envoyez vectorisé, point.
Et donc cette vectorisation prend en compte, d'accord, ça prend en compte aussi la police. Enfin, c'est-à-dire que
il y a une option. Vous avez une petite option, vectoriser les polices. Au revoir. Donc non, je vectorise toutes mes polices parce qu'en plus j'utilise des polices libres.
Oui.
Bon, j'utilise aussi des polices Microsoft parce qu'elles sont quand même très répandues, mais j'utilise aussi des polices libres. Donc de toute manière, j'ai une très forte probabilité pour que l'imprimeur n'ait pas les polices à l'arrivée. Donc je pourrais les joindre, mais de toute manière, il n'a pas la même machine, il n'a pas le même système d'exploitation que moi. Donc bon, finalement, je n'ai pas à me préoccuper de son environnement de travail.
D'accord.
Je vectorise tout, je lui fournis un PDF dont je sais qu'il sera... le PDF, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il est multi-plateforme.
Oui, tout à fait.
Donc, il n'y a pas de souci. J'ai plus à me préoccuper de mon OS ou de l'OS de mon imprimeur.
Et donc,
j'ai pas de problème.
Il n'y a aucun problème non plus. Dès qu'on veut faire de la quadricromie, ça passe sans souci.
Scribus comprend très bien la quadricromie. Donc, l'astuce, en fait, par exemple, par rapport à GIMP, donc, dont la prochaine version, éventuellement, devrait enfin intégrer le CMJN.
Préciser ce que c'est le CMJN pour nos auditeurs qui ne seraient pas spécialistes?
C'est en 4 couches. Vous travaillez en 4 couches de couleurs, alors que le RVB, vous travaillez en 3 couches.
C'est d'accord. Et donc, c'est ce qui permet, justement, de rendre tous les tons que l'on souhaite sur une feuille de papier?
Oui. Donc, ce que je fais, c'est tout ce qui va chez un imprimeur passe par Scribus chez moi. C'est aussi simple que ça. Et j'ai pas de problème.
D'accord.
Donc, j'importe tout, photos, etc. Et Scribus gère en plus les petites choses agaçantes comme les fonds perdus.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est les fonds perdus? Là, c'est les petites marges autour du texte.
C'est tout simplement. Quand vos aplats, vos photos, etc. dépassent la limite de la page, du support.
D'accord.
Donc, si vous mettez vos éléments, si vous les arrêtez au bord de la page, ce qui arrive, et ce qui est très laid, c'est qu'au moment de la coupe du papier, après l'impression, vous pouvez avoir une toute petite bordure blanche assez immonde. Donc, pour éviter ce genre de problème, vous faites toujours déborder vos objets qui doivent être coupés, vous les faites déborder. Donc c'est ça la gestion des fonds perdus, c'est gérer le fait qu'on va couper à l'intérieur de vos objets.
D'accord.
Et ça, l'outil le fait très bien, il le fait automatiquement. Alors c'est pas depuis très longtemps, hein, parce que les fonds perdus, on avait été nombreux à réclamer ça justement aux développeurs de Scribus en disant qu'on en avait vraiment besoin. Donc là aussi, un exemple des interactions qu'on peut avoir dans le libre et qu'on n'aura pas au niveau du logiciel propriétaire. Le libre, en fait, est en interaction constante avec ses utilisateurs.
Oui.
Donc, c'est un outil qui évolue en même temps que ses utilisateurs.
Eh bien, c'est sur cette très jolie conclusion que l'on va s'arrêter. Donc Agnès, merci.
Je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir.
Symbiose sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, on parle donc de graphisme et de libre. Donc, on vient d'écouter, avant le morceau, Agnès Maillard qui nous a un peu parlé de son boulot, etc. La musique en elle-même, donc, c'est toujours Mister Sushi Souchamp. C'était Imbabas Part 2. Et donc, maintenant, on va écouter donc une intervention que j'avais enregistrée avec Whale en juin de l'année dernière, le 14 juin pour être exact, à Paris, capitale du libre, et c'est Raphaël Bétan qui travaille sur Blender, qui est un logiciel de 3D. Et donc il y a un peu de foule dans le fond, mais donc c'était dans un événement public, et on écoute ça.
Donc, Blender, c'est un logiciel d'animation, d'image de synthèse, faire de l'image fixe avec aussi. Donc c'est un soft qui commence sa carrière, on va dire, dans les années 80. Qui a été développé par une boîte qui faisait de l'animation de synthèse en Hollande, qui s'appelait Neo Geo, qui n'a rien à voir avec la console. Et ils ont commencé à développer Blender pour leurs propres besoins. À l'époque, c'était juste un moteur de rendu. Et ils ont commencé comme ça à ajouter des outils petit à petit, jusqu'à ce que la boîte, donc Neo Geo, fasse faillite. Et à l'époque où Neo Geo a coulé, Blender était déjà un package logiciel assez intéressant, puisque c'était un paquet complet qui comprenait déjà un modeler, donc un moteur de rendu qui était assez performant, même s'il n'utilisait pas le ray tracing, bon, c'est un peu technique, mais il était très rapide, donc bien taillé pour l'animation. Et donc Neo Geo disparaît et les créateurs du logiciel décident de récupérer les sources, comme ils savaient qu'ils avaient un bon outil, et de construire un business model autour pour proposer Blender de façon gratuite sur le net et de faire des bénéfices autour en vendant des clés dans un premier temps qui permettaient d'avoir les nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que on avait accès en tant que logiciel gratuit à des fonctionnalités de base et la clé permettait de débloquer une partie des fonctionnalités. Et ils vendaient aussi de la documentation qu'elle est derrière. Donc ça a été fait sur une nouvelle société qui s'appelait Not a Number à l'époque. Donc ça devait être autour de 96-97. Et donc là, je découvre Blender en 98. À l'époque, j'étais infographiste déjà et je travaillais avec Lightwave. Et coincé sur un projet qui devait aller vite, j'ai découvert Blender et ça allait beaucoup, beaucoup plus vite, avec une prise en main plus facile, avec un système de calque qui me permettait de travailler plus vite. Donc ça, c'est première partie de l'historique de Blender. Donc Not a Number va croître comme ça pendant, on va dire, 3-4 ans. Des capital risqueurs vont entrer dans l'entreprise. Et en 2-3 ans, la petite boîte Not a Number passe de 2-3 codeurs et employés jusqu'à, je crois, à peu près 20 personnes. Et en 2001, éclatement de la bulle Internet, Not a Number s'écroule, fait faillite et le logiciel se retrouve dans les cartons du capital risqueur.
On peut couper ?
D'accord, donc à partir de là, il y a une communauté qui en fait rachète Blender et qui passe en logiciel libre.
Voilà. Alors... Le processus qui s'est mis en place à partir de ce moment, alors faut quand même rappeler ce qui a précédé un peu la libération des sources, c'est que Blender avait déjà une grosse communauté d'utilisateurs et sans être libre, il y avait tout un côté libre du logiciel qui participait à sa popularité. On pouvait déjà écrire des scripts Python, il y avait beaucoup d'outils autour qui étaient libres ou gratuits, donc c'était déjà un logiciel intéressant qui était déjà multiplateforme, donc qui était déjà très utilisé sous Linux. Il existait, je crois, mais je suis pas certain à l'époque, en 2001, un portage sous Mac OS. Donc à l'époque, ça devait être Mac OS 9 avec processeur, je me souviens plus du nom du processeur. Et donc il existait aussi pour Sun, pour SGI, etc. Et on se retrouve donc plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs avec un logiciel qui disparaît. Et on va un peu dans le mur. Et donc à cette époque, Ton Rosenthal, donc le créateur du logiciel, décide de créer une fondation pour racheter au capital risqueur les sources de Blender, parce qu'il n'en était plus propriétaire. Et là, il y a une campagne de dons qui s'est mise en place sur le net, une campagne assez extraordinaire qui a duré un mois. Et en un mois, on a réussi à récolter les 100 000 euros que demandait le capital risqueur. Donc je crois même qu'on a récolté au-delà de la somme, ça devait presque aller jusqu'à 110 000 euros. Et donc la somme a été récoltée, le capital risqueur a été payé, on a récupéré les sources. Et donc octobre 2002, première Blender conférence à Amsterdam, les sources du logiciel ont été libérées. Et depuis ce moment-là, Blender est un logiciel libre. Alors ce qui suit est assez récent aussi, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, d'autres codeurs, puisque le logiciel était ouvert, ont commencé à s'y intéresser. Donc de 2002, on va dire, jusqu'à 2004, Blender a progressé assez lentement parce qu'une partie du source était en hollandais, avec beaucoup de commentaires en hollandais, et bon, il y avait beaucoup de code en anglais aussi. C'est un logiciel qui est dit monolithique, donc il est pas forcément facile à maintenir, il est complètement écrit en OpenGL, donc il faut trouver aussi les compétences dessus. Et les codeurs qui sont arrivés dans le projet ont mis du temps un petit peu à rentrer dans le logiciel. Mais c'est quand même un logiciel qui a continué à rester populaire et qui a même cru dans ce sens-là. Donc une courbe de popularité qui allait croissante. Et là, on voit depuis 2 ans, il y a une équipe de développement fantastique qui s'est mise en place. Et grâce au projet donc Elephant Dream Orange, donc c'était un film animation montée par la fondation qui devait permettre de promouvoir Blender. Là, on a eu une explosion des téléchargements. C'est un logiciel maintenant qui est rentré vraiment dans l'esprit du grand public comme un logiciel d'animation 3D vraiment intéressant.
Donc, tu dis que c'est rentré dans l'esprit du grand public. Est-ce qu'on doit considérer comme un logiciel grand public ou comme un logiciel professionnel? Parce que de ce que tu en décris, ça a l'air comme très professionnel.
Alors, on va essayer d'éviter le troll de l'interface, parce que c'est vrai que bon, Blender a une réputation d'être difficile d'accès. Alors, c'est bon, quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas insisté beaucoup au départ, c'est qu'il a été créé par des graphistes qui ont fait un outil taillé pour leurs besoins. Alors, quand je parle de besoins, je parle bien sûr d'efficacité, c'est-à-dire de fonctionnalité, en fait, mais aussi d'interface, c'est-à-dire qu'ils ont codé au jour le jour l'interface pour qu'elle se conforme à leurs besoins de productivité, à leurs besoins de rapidité. Donc c'est un logiciel qui est difficile un petit peu d'accès, on peut le dire au début, mais qu'on manipule finalement beaucoup plus vite qu'un autre soft qu'on pourrait comparer à 3ds Max ou Maya. Une fois qu'on l'a en main, c'est un logiciel qui va très très vite. Alors maintenant, sur le côté grand public, c'est vrai qu'il y a l'écueil de l'interface qui est inhabituel. On retrouve pas le standard qu'on va trouver dans la bureautique avec des menus déroulants, des choses qui sont assez évidentes au départ. Donc c'est vrai que le grand public va buter là-dessus. D'un autre côté aussi, c'est vrai que c'est un logiciel très généraliste. Donc on va pas trouver de librairie toute prête, de matériaux, de modèles qui accompagnent le logiciel. Donc c'est une archive qui est relativement petite, elle fait autour de 5 mégas. Donc quand on le lance, on a un outil qui est, à mon avis, assez fantastique, mais qui arrive seul. Donc il faut tout faire. Donc dans ce sens-là, on peut pas dire qu'il soit aussi grand public qu'un logiciel comme Brise 3D, qui permet en quelques clics de faire des paysages fabuleux. Par contre, je pense qu'il permet d'en faire autant avec un peu plus d'expérience, un peu plus de temps. Alors c'est un logiciel qui... alors après, on pourrait le comparer à d'autres logiciels propriétaires comme Maya ou Max. C'est en même temps assez difficile parce que il est moins performant et moins pointu sur certains domaines comme le rendu, ça il faut l'accepter. Mais en même temps, c'est un logiciel qui est beaucoup plus complet. C'est vraiment une boîte à outils intégrée, un gros couteau suisse on va dire, qui permet d'aller de la modélisation au rendu, à l'animation de personnages, jusqu'au montage vidéo et à la post-production. Donc moi, je le pense effectivement assez grand public parce que je pense qu'il peut rencontrer les besoins de beaucoup de gens différents et répondre à toute une somme de besoins qu'on peut trouver dans toute application multimédia.
D'accord. Et est-ce qu'il existe, à côté de la libération du code, de l'outil, est-ce qu'il existe une dynamique qui viserait à libérer du contenu, c'est-à-dire, je sais pas moi, des objets modelés, etc., avoir une grande bibliothèque en licence libre d'objets modelés, ce genre de choses. Est-ce que la dynamique libre autour du logiciel se retrouve également dans la production faite par le logiciel, comme on peut voir en musique ou ce genre de choses?
Donc, je suppose que tu voulais parler de Creative Commons, c'est ça, de contenu sous licence libre. Alors, je vais parler de mon cas à moi. Je code un petit peu, donc ça me pose aucun problème de passer un script ou même un gros code en GPL. Je trouve ça assez naturel. Autant pour ce qui est du graphisme, le passage est plus difficile. Alors peut-être que ça vient d'un problème de mentalité, mais c'est pas encore dans l'esprit des gens de mettre du contenu sous licence libre. C'est beaucoup plus difficile pour un graphiste d'accepter que sa création, pour l'instant, soit sous licence libre qu'un codeur. Alors, il y a un chemin qui se fait petit à petit. Je pense que oui, c'est une question de mentalité. Il faut que ça évolue un petit peu. Alors, s'agissant des librairies qu'on pourrait trouver sous Blender, il commence à exister des sites communautaires qui rassemblent des textures, des matériaux ou des objets qui sont sous licence libre. Mais c'est un phénomène qui est relativement récent et qui suit pas forcément le mouvement qu'on trouve dans l'open source.
D'accord. Je sors un peu du coq à l'âne, mais tu parlais des gens qui ont développé Blender, qui ont participé à son développement. Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce qu'il y a des entreprises? Est-ce que c'est un peu un mix des deux? Ou enfin, quel est le contributeur à Blender type, si je puis, enfin si ça a un sens?
Alors, pour l'instant, le contributeur majoritaire à Blender est Ton Rosenthal, donc le créateur du logiciel, qui est aussi président de la fondation Blender. On peut dire qu'il fait une grosse partie du travail Et il est aidé, c'est vrai, par beaucoup de particuliers. Les principaux contributeurs sont particuliers. Il y a quelques entreprises qui participent un petit peu au code en faisant un peu de sponsoring ou en faisant des projets qui donnent une visibilité au logiciel. Mais à ma connaissance, il y a peu d'entreprises qui, pour leurs besoins, auraient développé des fonctionnalités qui le reversent après au pot commun, donc en open source.
D'accord. Bon. Voilà, bah, je te remercie et, voilà. Et donc bah, bon courage.
Donc Symbiose sur Radio Libertaire 89.4. Donc on continue sur les questions de comment dire de libre et de graphisme. Donc avec trois intervenants qu'on a enregistrés cette semaine. Donc Elisa de Castro-Guerra, Cédric Gémy et Olivier Gondrin. On est parti.
Donc Blender, c'est un logiciel d'animation.
Donc c'est Symbiose, donc en différé du studio B où on enregistre donc ce soir l'intervention de trois personnes qui sont impliquées dans le logiciel enfin libre, enfin en tout cas dans le graphisme libre. Pour commencer, on va demander de se présenter. On va commencer par Elisa.
Bonjour, c'est Elisa de Castro-Guerra. Alors j'utilise Inkscape depuis quasiment ses débuts. Et j'ai écrit un livre dessus pour que les utilisateurs débutants puissent bien utiliser Inkscape et parvenir à leur fin, ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas du tout un logiciel vectoriel. Et j'utilise aussi pas mal d'autres logiciels graphiques. Voilà.
Et dans quel cadre ?
C'était pour mes études, j'avais besoin de faire des écrits bien mis en page, et donc j'étais obligée de passer par des logiciels de mise en page. Puisque j'ai toujours été sur Linux et que OpenOffice, j'utilisais BWord à l'époque, ou KWord, à l'impression, le rendu n'était pas excellent.
D'accord, on va revenir là-dessus. Donc, ensuite.
Oui, donc moi, c'est Cédric Gémy. Donc, j'utilise les logiciels libres de graphisme depuis les débuts de GIMP. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps, ça fait 11 ans maintenant. J'utilise Inkscape depuis qu'il s'appelait Sodipodi, donc avant qu'Inkscape existe. Et j'ai commencé la documentation du logiciel d'ailleurs à ce moment-là. Et Lisa a rattrapé maintenant et d'autres personnes, mais voilà. Et j'utilise aussi beaucoup Scribus, donc qui est un logiciel de mise en page, qui est sorti à peu près au même moment qu'Inkscape, et qui est le seul à faire ce qu'il fait, en tout cas un logiciel libre, donc et il le fait bien, donc du coup. Je serais content d'utiliser.
D'accord, tu utilises ça dans quel cadre ?
Alors moi, en fait, j'ai fait des études d'art graphique. Donc avant, j'utilisais que les produits Adobe. Donc petit à petit, je m'en suis dégagé. Et donc en tant que graphiste, mais aussi beaucoup maintenant en tant que formateur, parce qu'en fait, les gens sont assez demandeurs. Et donc de plus en plus, je fais moins de graphisme et plus de formation. Les deux sont bien.
D'accord, c'est la formation pour quel public ?
Un peu tout le monde. Des associations, des mairies, quelques boîtes privées, des grosses boîtes en général, donc un petit peu de tout. Hein.
D'accord. Et donc, ensuite, Olivier.
Alors, moi, c'est Olivier Gondouin, je suis administrateur système et réseau. Donc, j'ai fait plutôt des études de programmation, de développement informatique. Je suis dans l'informatique depuis tout petit, passionné de dessin, donc ben, je continue. Je travaille donc dans une petite société spécialisée dans les logiciels libres. Et puis, je fais de la peinture le soir et j'utilise des logiciels graphiques libres, donc GIMP depuis très longtemps, et puis Inkscape, effectivement, Sodipodi avant, et d'autres logiciels comme MyPaint, et enfin tout ce qui existe en graphisme de libre.
Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi utiliser des logiciels libres de graphisme ? Elisa ? Enfin, tu nous avais expliqué que toi, t'es dedans depuis le début, c'est-à-dire que t'es venu par nécessité, t'étais déjà sous Linux avant.
Oui.
Ouais.
Oui, j'étais sous Linux parce que quand j'ai vu la philosophie de GNU Linux, ça m'a bien parlé. Et donc j'ai voulu utiliser, tester, et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire bien plus de choses sous Linux que sous Windows ou Mac, parce que j'ai eu les deux. Et on devait écrire des mémoires tout simplement en tant qu'étudiant. Mais à l'impression, c'était pas fait. KWord ou BWord, ce ne sont pas des logiciels pour imprimer. le rendu n'était pas excellent. Il faut vraiment que ce soit millimètre près. En plus, c'était plutôt des travaux graphiques, avec des photos, des images. Enfin, c'était très important. Et donc, il fallait quelque chose de correct. Alors, j'ai consulté Internet pour savoir qu'est-ce que je pouvais utiliser et pourquoi faire exactement. Et je suis tombée sur Linux Graphics à l'époque. Et
donc Linux Graphics, c'est un site internet de gens qui s'intéressent au graphisme avec des outils libres.
Uniquement, oui, que des logiciels libres. C'est essentiellement ouvert à ceux qui ont Linux, mais bon, maintenant, à tout le monde, les logiciels libres maintenant sont, on peut les utiliser un peu partout, dans tous les OS, et du coup, plein de gens peuvent connaître les logiciels libres graphiques.
Je voulais dire quelque chose. Il y avait une période, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait certains logiciels qui n'étaient pas libres, mais qui fonctionnaient sous Linux, qui étaient documentés sur Linux graphique. Je sais pas si...
Ah bon ?
Ouais. Mais c'était toujours dans une optique d'un système libre, qui est Linux, qui est le plus répandu aujourd'hui parmi les systèmes libres.
Et donc Cédric, toi tu alors je sais pas Elisa, toi au niveau de ton parcours avant tu disais que c'était assez graphique, mais c'était un mémoire dans une formation de graphiste ou
pas du tout, c'était en sciences humaines, non. Mais il faut quand même mettre des images, des photos, des illustrations, des symboles.
D'accord. Ouais. Donc oui, c'était pour en venir à Cédric qui lui est un graphiste estampillé. Ouais. Il y a une foule d'outils qui existent déjà, enfin tous les trucs Adobe dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi tu s'en es détaché? Parce que finalement, c'est avec ça que tout le monde bosse. Enfin, si tu peux me permettre, la caricature dit le graphiste, il a un Mac et il tuerait plus si on lui enlève, quoi.
C'est tellement une caricature que j'ai été obligé de m'acheter un Mac pour leur montrer que nos logiciels marchaient sur les Macs. donc oui, c'est une vraie caricature, qui correspond en grande partie à la réalité. Pourquoi utiliser le logiciel libre? Je pense que... moi, j'ai eu mon premier contact avec le logiciel libre, ça date de 1996. J'avais trouvé ça dans une revue, une Red Hat à installer, dans Red Hat 5. Il m'avait fallu 3 jours pour l'installer à l'époque. Mais je pense que ça valait le coup, parce qu'en effet, comme disait Elisa, la philosophie derrière, c'est quand même la philosophie une philosophie d'entraide, ce qu'on dit souvent, mais c'est aussi une philosophie qui redonne le pouvoir aux gens, finalement, de ne pas être dépendant d'une entreprise. Là, j'ai reçu un mail hier de Adobe, parce que j'ai quand même les produits Adobe pour tester les échanges entre nos logiciels et le produit Adobe marche bien. J'ai des licences Adobe que je paye, et j'ai reçu un mail de chez Adobe hier, comme quoi ils arrêtaient un de leurs produits, quoi. Comme ça, et puis ils disent d'ici fin mars, terminez tout parce qu'on ne soutient plus. Alors, les gens qui me disent. Le logiciel libre, c'est pas fiable, ça va pas durer dans le temps parce que les gens, ils sont pas payés, etc. Moi, je leur réponds, non, au contraire, parce que les gens sont pas payés, ça va durer beaucoup plus longtemps qu'une boîte qui a des intérêts particuliers. Et donc ça, c'est le premier point, la philosophie. Puis le deuxième point, je pense que ça permet beaucoup plus de choses. Moi, je voyais, par exemple, une fois avec Inkscape, j'avais un client qui m'a demandé de lui faire un set d'icônes, donc il y avait à peu près 250 icônes à faire. J'avais tout fait dans un seul fichier parce que c'est plus simple, on fait une base, on copie, on colle, et puis on fait des modifications, on copie, on colle, on fait des modifications, donc c'est facile. Et puis je lui rends le fichier, et puis il me dit, non, en fait, on est obligé de vous préciser, mais il faudrait que ça soit dans des fichiers dépendants, qu'ils soient tous nommés de telle et telle façon, etc. Grâce à Inkscape, j'ai pu le faire, on a créé un petit script facilement, une demi-heure, et puis hop, avec l'aide des gars d'Inkscape, et ça s'est fait comme ça, quand on n'a rien de temps. Le code est ouvert, donc j'ai fait un appel, un gars qui m'a dit tiens, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça, va voir là. Alors moi je suis pas programmeur, mais bon, j'ai regardé un petit peu, avec son aide j'ai réussi à le faire, et puis et j'ai regardé après dans Illustrator, Illustrator n'aurait pas été capable de le faire, pourtant c'est l'équivalent d'Inkscape qui coûte 1300€ pièce, et il n'était pas capable de le faire non plus, et on n'aurait pas pu le faire puisqu'il n'est pas extensible comme extensible logiciel libre, puisque le code n'est pas livré. Donc je pense qu'à la fois au niveau éthique et à la fois au niveau pratique, on y a intérêt, même si parfois ils sont un peu moins complets, même s'il y a des défauts. Tous les logiciels ont des défauts, mais je pense qu'on s'y retrouve largement.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Cédric, il y a un autre point que je voulais soulever, c'est lorsqu'un logiciel comme ça est propriétaire et meurt, en général, les formats de fichiers ne sont pas documentés, donc la personne qui a travaillé avec ne peut plus du tout utiliser ces documents. Alors que dans les logiciels libres, en général, on essaye d'utiliser des formats ouverts, ou s'il n'y en a pas, de les créer. ce qui permet de la réutiliser à l'infini avec des nouveaux logiciels au cas où le projet soit abandonné parce qu'on en craint de vous plus avec une meilleure conception. Mm-hmm. C'est assez rare. Enfin, les projets qui il y a dans les logiciels libres, il y a ce qu'on appelle les forks, c'est-à-dire comme une fourchette. C'est-à-dire que bah, c'est le cas de SodiPodi, pardon, on parlait de SodiPodi tout à l'heure. C'est un logiciel vectoriel qui était vraiment très bien, qui avait fait évoluer très très rapidement les possibilités dans le domaine du vectoriel, mais d'autres programmeurs sont arrivés, ont trouvé que ça allait encore pas assez vite, et donc ils ont fait un fork, c'est-à-dire qu'ils ont repris le code, ils ont fait une autre application vue différemment, et depuis cette application s'est mise à être développée de plus en plus vite, à attirer beaucoup de gens, et l'autre projet était abandonné finalement, et tout le monde allait vers le nouveau projet. Donc, mais si quelqu'un veut reprendre l'autre projet, l'ancien projet, c'est toujours possible. Ou en faire un troisième, pourquoi pas, voilà. Ça arrive sur pas mal de logiciels libres. Mais voilà, l'ouverture est toujours possible. Rien n'est fermé. C'est quand même un avantage.
Je pense qu'il y a un dernier argument que moi je verrais par rapport. C'est que quand on a le même outil que tout le monde, on fait les mêmes saloperies que tout le monde. Du genre, quand on fait une mise en page et qu'on voit une pub, quand on rencontre des ombres portées ou des biseaux, on sait que ça vient de Photoshop, quoi. Mmh. Et donc avoir un outil différent avec des fonctions différentes, c'est aussi une façon de faire des choses différentes des gens. Ça oblige à réfléchir, à être un peu original et ça se remplace pas, ça.
Ok, David, tu avais une question.
Oui, on a commencé à parler des formats, justement. Alors, est-ce qu'on pourrait justement discuter des formats d'échange, notamment avec les professionnels? Donc professionnels de sorte, les imprimeurs en bout de course, premier point, mais aussi avec la presse. Si par exemple on vous demande une image dans la presse, à quel format vous le transmettez, sachant que eux en général sont justement sous une suite propriétaire.
Bah, le problème c'est que les suites propriétaires ne supportent pas du tout les formats libres en général. Donc ça pose un problème, donc on est un peu obligé de s'adapter. Alors nous-mêmes on a du mal à supporter les fichiers propriétaires, justement parce que c'est pas documenté ou parce que le code est fermé. C'est le cas du Photoshop par exemple. Adobe ne publie plus les spécifications du format Photoshop depuis la version 6. Pour Illustrator c'est depuis la version 9 je crois, enfin bon peu importe, mais c'est vrai que c'est plus documenté. Donc la meilleure façon d'échanger des fichiers, enfin, nous ce qu'on utilise c'est PDF.
D'accord.
En Scribus, par exemple, un PDF de super bonne qualité. Alors après, si ça vient d'une image de GIMP, je sais pas, ça peut être du PNG, s'il n'y a pas de compression. Donc,
du TIFF peut-être.
Du TIFF, ouais, mais.
Qui est pas mal utilisé aussi par les TIFF. Et qui est ouvert aussi.
Mais alors, notamment justement avec les imprimeurs, les outils donc style Scribus et Inkscape garantissent justement que les bonnes polices vont sortir. Ce type de problématique, parce que souvent on parle de WYSIWYG, donc ce qu'on voit va être vraiment ce qu'on imprime. On parlait en tout début que justement les outils style OpenOffice ne répondent pas à ce besoin de manière parfaite, mais il y a souvent la problématique des polices, y compris avec certaines polices de caractère qui sont propriétaires. Donc est-ce que c'est facile de naviguer parmi tout ça?
Alors, pour les polices, il y a les histoires de licences sur les polices, comme sur une image, il y a un propriétaire qui autorise ou pas à le diffuser. Maintenant, les formats de police sont ouverts. Tous les formats utilisés en imprimerie sont ouverts, donc disponibles. Donc là, il n'y a pas de problème pour pouvoir les ouvrir avec les logiciels libres, en créer. Il y a même un logiciel qui s'appelle FontForge, qui est vraiment très très bon au niveau de la gestion des polices de caractère. À ma connaissance, c'est le seul logiciel de création de fonds qui gère vraiment tous les formats utilisés. Il y a un logiciel ou deux propriétaires qui existent, qui sont très chers, mais qui ne doivent pas gérer autant de formats.
D'accord.
Et ce logiciel permet aussi d'importer depuis Inkscape des images. Donc ça permet de designer sous Inkscape certains caractères et de les mettre au propre dans FontForge, parce que dans les fonds de caractères, il y a des contraintes d'éloignement entre les caractères. De placement des accents, etc. Donc,
okay.
C'est assez complexe. Donc il vaut mieux un logiciel vraiment spécialisé pour les fonts.
Est-ce qu'on pourrait, on parle de logiciel, faire un petit tour d'horizon des logiciels qui existent, enfin un truc un peu... Lisette peut peut-être commencer par nous parler de...
Alors en dessin, les gens peuvent le trouver facilement. Il y a GIMP qui sert essentiellement de retouche photo, ça je pense que tout le monde connaît. Il y a Inkscape en dessin vectoriel, mais il n'y a pas
retouche photo, c'est un peu l'équivalent de Photoshop, c'est ça?
Oui. Moi, je ne connais pas du tout les logiciels libres, propriétaires, pardon, mais ça doit être ça.
Oui.
Il y a aussi MyPaint, ça c'est pas mal MyPaint, c'est pour vraiment simuler le dessin du crayon sur le papier, enfin c'est un peu...
Gros, c'est un peu plus naturel, un peu comme Painter ou Wartrage par exemple,
ouais.
Mais avec vraiment des spécificités, c'est-à-dire que ça simule pas vraiment les outils naturels, mais ça essaie d'explorer plus loin avec des outils qui sont paramétrables à l'infini, avec des milliers de paramètres, c'est vraiment impressionnant.
Et les tablettes sont très bien configurables, donc il ne faut pas s'en priver de ce genre de petits logiciels. Petits par rapport aux grosses comme GIMP, qui est très documenté, et donc c'est facile de l'installer, de l'utiliser, de l'essayer. Mais il y en a des tas d'autres.
Et pour les nostalgiques de Deluxe Paint.
Ah oui, ben moi j'utilisais sur Amiga à l'époque Deluxe Paint.
Voilà, donc pour les connaisseurs, en fait, Deluxe Paint était un logiciel de dessin donc sur Amiga, qui était porté ensuite sur MS-DOS à l'époque, et qui était quand même très pratique et convivial, et qui était, on va dire, le standard quand même de l'époque, donc fin des années 80, enfin milieu des années 80, fin des années 80. A-t-on des équivalents genre, sous Linux de ce type de logiciel?
Mais on retrouve à peu près toutes les fonctions dans GIMP de Deluxe Paint. Alors il y a les fonctions une fonction qui était importante, c'était le fait de pouvoir avoir une grosse brosse et de la copier à volonté, enfin l'utiliser. Bon, maintenant on les retrouve dans les versions récentes de GIMP, avec des brosses qui peuvent être agrandies en fonction de la pression du crayon, et donc qui permet d'avoir vraiment toutes les fonctions d'Expense.
Ouais, dans Deluxe Paint, on pouvait par exemple dessiner ne serait-ce que des cercles ou des carrés, donc ces fonctionnalités aussi sont disponibles dans GIMP.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un petit outil spécialisé dans les dessins vectoriels, et, qu'on retrouve aussi effectivement dans Inkscape. Et Inkscape, qui est un outil vectoriel, contient aussi maintenant des petits outils qui ressemblent un peu aux outils de dessin bitmap ou qu'on appelle matricière.
Alors est-ce qu'on peut préciser justement peut-être la différence pour nos auditeurs, la différence entre justement des images vectorielles et des images bitmap?
Alors les images bitmap, c'est plutôt par exemple des photos, donc des images qui vont être définies comme un écran avec une grille de points, alors que les images vectorielles vont être plutôt définies géométriquement par des vecteurs, des courbes, donc qui vont être redimensionnables à l'infini sans perte de qualité.
Voilà, alors qu'une image bitmap, si on zoome, on voit les pixels, qu'on voit les points.
Alors aujourd'hui, il y a des techniques un peu améliorées qui permettent de zoomer sans trop perdre de qualité jusqu'à un certain niveau. Mais effectivement, au bout d'un moment, on voit vraiment la différence. Donc,
d'accord.
Et on peut très bien en vectoriel mais mettre des images bitmap et réciproquement. Donc,
d'accord.
Il y a des échanges qui se font entre les deux formats, c'est pas non plus complètement séparé.
D'accord. Donc dans les logiciels, donc tu as cité beaucoup de logiciels de dessin vectoriel là dans la liste. Est-ce qu'on a peut-être,
ça
fait vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux citer, je sais pas, les principaux quand même, si on fait toute la liste, ça sera un peu.
Alors vraiment les principaux, c'est Inkscape, logiciel vectoriel. Peut-être OpenOffice Draw qui sera peut-être utilisé pour les schémas aussi. Dans ce cas, il y a Dia aussi qui est pas mal.
Mais c'est plus pour les diagrammes techniques.
Voilà, c'est ça.
Ce genre de choses.
Voilà, pour l'organisation. Pour l'organisation, il y a aussi les logiciels, les mind maps ou les, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, qui sont vraiment spécialisés dans l'organisation. C'est là, on sort vraiment du domaine du graphisme. Mais où ça utilise aussi tous les principes du vectoriel.
Et si on va au-delà du vectoriel, donc on n'a pas le Scribus par exemple, donc ça c'est la PO, c'est ça?
C'est de la PO, c'est-à-dire que ça fait la production de documents destinés simplement à être imprimés, comme disait Lisa tout à l'heure, mais en plus d'être imprimés chez des professionnels, donc qui ont une façon de travailler et des matériels d'impression spécifiques.
Donc, il y a un journal qu'on peut citer.
Le Tigre en particulier, oui, qui depuis plusieurs années maintenant est fait exclusivement sur Scribus et dont les membres
participent, on va dire, font du support aux utilisateurs sans être programmeurs, ils aident les utilisateurs, donc c'est toujours très agréable, en particulier sur Linux Graphique, qui répond toujours aux questions, tout ça, donc c'est toujours bien. Mais c'est vrai que Scribus, ça rentre vraiment sur un créneau très particulier, qui ne va pas servir forcément très souvent, on va dire, à monsieur tout le monde, parce que tout le monde n'a pas à produire des brochures, des magazines, des revues, des livres, je sais pas, tous les jours, quoi. Pour un petit flyer, je pense qu'Inkscape, ça sera bien.
On a quand même cet effet. Le fait d'avoir l'outil peut aussi susciter de...
Ah, par contre, oui. Alors, par contre,
parce qu'il y a quand même un paquet d'associations ou de gens qui ont des activités, et plutôt que de faire un truc avec Word
Tout moche... C'est la plupart des cas, c'est comme ça. C'est des gens qui n'ont pas de licence, en particulier de Microsoft Publisher, ou qui l'ont, mais qui produisent des résultats assez exécrables. Donc ils préfèrent utiliser maintenant Scribus, qui est un petit peu plus lent à l'utilisation, qui a certaines exigences, mais qui produit vraiment un résultat qui est quasiment fidèle à ce qu'on a à l'écran. Ce qui est assez exceptionnel en imprimerie, parce que le VisiVix, ça n'existe pas chez les imprimeurs. On ne peut jamais avoir à l'écran ce qu'on a sur le papier.
Alors au niveau des mises en page, il y a aussi un logiciel majeur, c'est LaTeX,
ouais,
qui est une référence dans le domaine scientifique, et qui est aussi vectoriel, et la majorité des scientifiques l'utilisent pour leur publication depuis des années, ça fait au moins 10 ou 20 ans.
On avait reçu quelqu'un de la tech là.
Non, par contre, les graphistes, aucun. Hein.
Ouais, c'est pas vraiment
écrire des balises et des trucs comme
voilà,
ça.
Voilà,
c'est vrai. Alors, on a parlé des clip art aussi. Alors, c'est aussi ce qui fait souvent la force des outils, justement, propriétaires, c'est le fait d'avoir une base de données de ces fameuses images. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans le monde du libre, donc des bases d'images libres?
Alors, il y a Open Clip Art, qui est un projet qui a pour but justement de réunir des clip art, principalement vectoriels. Ensuite, il y a des sites comme Wikipédia, que je pense tout le monde connaît aujourd'hui, qui est une encyclopédie libre où tout le monde participe, qui contient un sous-projet qui s'appelle Commons. Commons.wikipedia.org, qui contient des tas d'images, de photos qui sont sous licence libre, mais aussi maintenant de plus en plus de schémas vectoriels qui sont très bien pour les illustrations. Alors, principalement dans des domaines scientifiques pour faire des schémas, par exemple en biologie, par exemple un œil, comment est composé un œil avec les différents éléments. Alors là, le SVG, qui est le format libre utilisé, est assez avantageux puisqu'il est vraiment adapté pour le web et il peut être modifié à volonté, et les gens qui les produisent pour les commons mettent les légendes mais sans mettre les mots, c'est-à-dire les légendes sont vides de façon à ce que ça puisse être traduit dans toutes les langues de Wikipédia. Donc les utilisateurs peuvent télécharger le SVG, rajouter la traduction dans la langue qu'ils utilisent et le remettre sur le Commons. Donc c'est quelque chose de très ouvert et avec beaucoup de possibilités au niveau international.
Donc, la prochaine version d'Inkscape aura un navigateur intégré de fichiers OpenClipArt. Il y aura un système aussi d'ajout de fichiers OpenClipArt. Donc n'importe qui aura Inkscape pourra à la fois aller chercher et à la fois proposer ses propres images à OpenClipArt de façon très simple par le biais d'une petite fenêtre.
Alors, ça peut nous amener justement à cette question des licences libres ou de libre diffusion, non pas appliquées au logiciel, mais à la production. Donc est-ce que dans le milieu des graphistes du libre, est-ce que le fait de mettre son travail sous licence libre ou de libre diffusion est quelque chose de répandu? Est-ce qu'il y a une dynamique là derrière?
Alors ça dépend vraiment des personnes, je pense. Il y a certains professionnels, je pense, qui participent principalement à la création des icônes de bureau. Donc là, ils le font librement.
Après, à titre professionnel, c'est plus compliqué parce que c'est toujours mis à discussion avec le client quand même qui achète.
Ouais, ouais,
et donc moi, c'est clair, quand je fais des produits graphiques pour des clients, je leur propose, je leur dis, est-ce que ça pourrait être libre, mes contributions. Donc il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Donc là, après, c'est bien, mais moi-même, quand je fais des documents, par exemple, j'ai fait une documentation libre sur GIMP qui fait 250 pages, donc qui est assez complète, et j'en ai fait une autre qui est publiée chez un éditeur, qui elle n'est pas libre. Donc je crois qu'on peut, sur la même personne, finalement, en fonction des objectifs qu'on se donne, on peut avoir les deux. Je pense pas que ça pose problème, parce que les deux ont l'intérêt. Pour une documentation libre, celle que j'ai fait sur GIMP, bon, elle est beaucoup téléchargée, les gens la lisent, mais pas autant que ce qui passe par tous les libraires de France et de Navarre, etc.
Il n'y a pas eu pendant longtemps les traditions, que ce soit en littérature ou enfin dans tous les arts, de prendre des œuvres, de les réinterpréter ou ce
genre de choses. En science, en mathématiques, c'est très visible, ça, puisque.
Mais en musique aussi.
La recherche avance.
Oui, bien sûr.
En musique aussi.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais ça, c'est toujours fait sans avoir les licences, donc du coup, les licences apportent peu de choses de ce niveau-là.
Non, mais typiquement, licence libre, enfin, il est vrai que à l'heure actuelle, quand on veut une reproduction d'un tableau, on est obligé d'attendre 75 ans après la mort de l'auteur, et c'est quand même dommage de se dire que chez soi, on ne peut même pas avoir une reproduction à 10 euros d'un Picasso, quoi. Alors, du coup, si un auteur s'appuie sur les logiciels libres pour produire une œuvre, que l'œuvre originale, à la limite, il l'imprime en grand, il la vende, ça, je comprends tout à fait, il faut bien vivre. Mais par contre, effectivement, interdire la recopie et donc la reproduction à échelle réduite personnelle, c'est quand même dommage, non ?
Mais je pense que ça dépend vraiment des illustrateurs ou des gens qui vont faire de l'image avec. Je pense qu'on doit pouvoir trouver de tous les cas.
Après, ça dépend des artistes. Il y a Matisse qui disait qu'il ne faisait jamais deux fois le même tableau et même qu'il ne faisait jamais de croquis à la main parce qu'il estimait qu'un truc en petit, c'était pas pareil qu'un truc en grand. Et donc... voilà, donc après il y a d'autres considérations qui rentrent en compte. Je pense que c'est pas que un problème de droit. Je sais que la plupart des artistes, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire à des grands artistes qui ont des droits sur tout ce qu'ils font reproduire et ils m'ont envoyé des trucs. Enfin, chez moi j'ai une pile de machins comme ça, de grands artistes américains qui vendent des trucs à plusieurs millions et puis j'ai plein d'échantillons de ce qu'ils ont fait.
Mais je pense que les logiciels libres, ce qu'ils peuvent apporter, c'est le questionnement pour l'utilisateur. Donc celui qui sera amené à créer, il se dit « Ah, j'ai créé avec quelque chose que j'ai pu modifier, télécharger, diffuser à volonté. Donc ce que j'en produis, je peux l'offrir aussi à la communauté comme ça m'a servi ou alors le garder pour moi. Peut-être que la première fois, il va le garder pour lui. On aura juste le droit de le regarder. Et puis après, il va réfléchir ou alors il va juger que son travail mérite d'être largement diffusé, et du coup il va le mettre sur OpenClipArt ou sur d'autres sites comme ça. Donc je pense que ça a le mérite. Et petit à petit, qui sait, davantage d'éditeurs, personnels ou professionnels, qui vont se poser la question et permettre des licences moins restrictives.
On trouve de plus en plus de sites web où il y a des illustrateurs qui diffusent.
Donc c'est Symbiose, j'ai coupé un petit peu à l'arrache. Donc voilà, enfin on est obligé d'arrêter maintenant. On avait eu à peu près une heure d'entretien avec ces trois personnes et on mettra le fichier intégral sur Internet. Donc David, tu peux d'ailleurs peut-être nous parler un petit peu de d'où on peut trouver nos fichiers et de ce qu'on va monter.
Oui, donc si pour aller plus loin, après l'émission, en fait, on a créé une liste de diffusion Symbiose. Une liste de diffusion, donc une mailing list. Vous trouverez l'adresse de cette mailing list sur le site onirik.net, onirik, O-N-I-R-I-K.net. C'est aussi sur ce même site que vous trouverez les archives des anciennes émissions. Donc si vous avez loupé une émission, vous la trouverez au format OGG et au format MP3 aussi, donc librement téléchargeable en licence Creative Commons.
Voilà, bah très bien. Bah on se retrouve dans un mois et on vous laisse en musique et à bientôt.